Radio J. Et d'ici là, portez-vous bien.
Le Grand Journal. Le Grand Journal. Steve Nadjar. Steve Nadjar.
Le 6-9. Le 6-9. Radio J.
Radio J.
Il est 6h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme tous les matins en direct. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024, 210e jour de guerre contre le Hamas. On en parle sur Radio J, malheureusement toujours 133 otages à Gaza. Et comme tous les vendredis matins, nous sommes avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Ilana.
Eh oui Etanit, aux informations, comment ça va ce matin?
Très bien, et vous?
Eh bien ça va très bien, également avec Greg Labadie à la réalisation. Bonjour Greg.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Comment ça va bien?
Quelle semaine longue hein, quand même.
C'est vrai, parce que nous n'étions pas là lundi, mardi, jour de fête. Mais nous sommes revenus très en forme, et très en forme ce vendredi également, dernier jour de la semaine. Il y a beaucoup d'informations les amis ce matin. Nous ferons donc le point sur l'information dans quelques instants avec Etanit, à suivre également la correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Et puis vous le savez, dimanche aura lieu le Yom HaShoah, le jour du souvenir de la Shoah, avec différents événements qui vont être organisés. Nous serons à partir de 6h20 avec Raphaël Gottferstein, le Rav Raphaël Gottferstein, qui organise des voyages de la mémoire, notamment pour les jeunes en Pologne, et qui a créé ce fameux Sefer Torah d'Auschwitz. On en parlera. Et puis avant 7h, on va parler de ces femmes qui bougent pour la paix, notamment pour faire aussi reconnaître la légitimité de l'État d'Israël. C'est les Women United for Peace. Elles seront avec nous sur Radio J. Mais d'abord l'actualité, donc 210e jour de guerre, et on apprenait ce matin, Etanit, la mort d'un nouvel otage en captivité.
Dror Or, qui faisait partie des Israéliens pris en otage par le Hamas au kibboutz de Be'eri, il aurait été tué dès le 7 octobre, c'est ce que déclare son kibboutz. Son corps est donc toujours détenu à Gaza. Yonat, son épouse, a également été assassinée dans la maison du kibboutz, et leurs deux enfants, Noam, 17 ans, et Alma, 13 ans, ont eux été kidnappés mais relâchés en novembre lors du premier accord de cessez-le-feu signé par Israël et le Hamas.
Et justement, au sujet des négociations pour la libération des otages, Israël attend toujours la réponse du Hamas.
Une proposition que le secrétaire d'État américain juge extraordinairement généreuse. Le Hamas est le seul obstacle à un cessez-le-feu immédiat, a pour sa part indiqué Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. Les principales objections viennent du chef du groupe terroriste à Gaza, Yahya Sinwar, qui exige notamment la fin inconditionnelle de la guerre. Sinwar qui s'oppose également à ce qu'Israël ait le droit d'interdire l'accès de la Judée-Samarie à certains terroristes palestiniens. Par conséquent, selon le Wall Street Journal, Israël s'attend à ce que le Hamas rejette tout accord.
Et cette nuit, par ailleurs, Israël aurait frappé en Syrie à Damas. 8 soldats syriens ont été blessés.
C'est ce que rapportent les médias d'État syriens, sans confirmation pour l'instant du côté d'Israël. Cette frappe visait une base du Hezbollah. Par ailleurs, Tzal a ciblé plusieurs membres du groupe terroriste repéré dans des bâtiments utilisés pour attaquer la région du Mont Dov en Israël plus tôt hier.
Et concernant la bande de Gaza, le premier ministre israélien a une nouvelle fois promis d'opérer à Rafah contre le Hamas.
Nous ferons ce qu'il faut pour gagner et triompher de nos ennemis. Le chef de l'exécutif a également précisé qu'il y avait toujours des désaccords sur les opérations en cours et à venir, mais que Tzal opérerait bien sur différents fronts. Écoutez.
Nous sommes tous engagés à obtenir la victoire et nous devons rester concentrés pour remplir cette mission. Il y avait et il y a des divergences d'opinion entre nous concernant les opérations à mener sur les fronts lointains et proches. Mais au terme des discussions, j'ai pris une décision et la décision a été prise. Nous avons agi là-bas et nous agirons ici également. Nous ferons ce qui est nécessaire pour vaincre notre ennemi, y compris à Rafah.
Le premier ministre israélien. Pour sa part, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a réitéré l'opposition des États-Unis à une opération à Rafah lors de sa visite en Israël. Avant-hier, en tout cas, le cabinet de guerre s'est réuni hier soir pour avancer sur la question.
Benjamin Netanyahou s'est par ailleurs aussi exprimé à l'occasion d'une rencontre avec des survivants de la Shoah qui participeront ce dimanche à une cérémonie au mémorial de Yad Vashem pour Yom HaShoah.
Si les Juifs ne se protègent pas eux-mêmes, personne ne les protégera, a souligné le premier ministre israélien. Hier, le Bureau central des statistiques en Israël a indiqué qu'il y avait désormais dans le monde 15 700 000 Juifs, un nombre toujours inférieur à celui d'avant la Shoah. Dans le détail, plus de 7 millions vivent en Israël et 6 300 000 aux États-Unis. La France comptabilise quant à elle 440 000 juifs en troisième position du classement, soit 3% du total.
Les manifestations anti-israéliennes se poursuivent aux États-Unis. Et oui, on en parle, obligeant hier le président américain à s'exprimer.
Les manifestations sur les campus ne m'ont pas emmené à reconsidérer ma politique concernant Gaza. C'est ce qu'a de son côté indiqué Joe Biden, qui a estimé que l'ordre devait prévaloir. Rappelons que plus de 1600 personnes ont été interpellées depuis le 18 avril sur une trentaine de campus. L'antisémitisme et les menaces contre des étudiants juifs n'ont pas leur place ni sur les campus ni en Amérique, a tenu à souligner le président américain. On écoute donc Joe Biden.
Une manifestation violente n'est pas protégée. Une manifestation pacifique l'est. C'est contraire à la loi quand il y a de la violence. La destruction de biens, ce n'est pas une manifestation pacifique. C'est contraire à la loi. Le vandalisme, l'intrusion par effraction, le cassage de fenêtres, la fermeture des campus, poussée à l'annulation des cours et des examens, rien de tout cela n'est une manifestation pacifique. L'opposition est essentielle à la démocratie, mais l'opposition ne doit jamais conduire au désordre ou à la négation des droits des autres étudiants à finir leur semestre et leur formation universitaire. Il y a le droit de manifester, mais pas le droit de semer le chaos.
Le chef d'État américain hier depuis la Maison Blanche.
Et puis en France, on l'apprenait hier, Sciences Po annonce la fermeture de ses principaux locaux à Paris.
Après un débat interne sur le Proche-Orient hier matin, qu'ils ont jugé décevant mais sans surprise, les étudiants du comité Palestine de Sciences Po Paris ont de leur côté annoncé hier soir le début d'une grève de la faim en solidarité, disent-ils, avec les victimes palestiniennes. Écoutez la réaction du dessinateur Johan Farr, il était invité hier à un débat à Sciences Po.
Les grands textes sur l'identité palestinienne écrits par des chercheurs arabes et juifs, les grands textes sur la paix au Proche-Orient, ils ont été écrits dans des universités israéliennes depuis plus de 30 ans. J'ai pas remarqué que l'université française ait produit de grands textes sur le Proche-Orient depuis longtemps. Donc se couper, vouloir boycotter les universités israéliennes qui sont le premier lieu de contestation contre Netanyahou, c'est particulièrement absurde et c'est une manière de couper l'herbe sous le pied des personnes qui prennent de vrais risques pour se battre contre la guerre en ce moment.
Le dessinateur Johan Farr, la mobilisation ne faiblit pas, mais puisqu'une action pro-palestinienne est prévue aujourd'hui à 14h sur la place du Panthéon. De son côté, l'Union des étudiants juifs de France organise une table ronde à place de la Sorbonne pour débattre avec les étudiants qui le souhaitent. Ce sera de 10h à 18h.
Merci beaucoup, Etanit Belaïch. On vous retrouve tout au long de cette édition. Et avant de retrouver Pascal Sunshine à Jérusalem, un point sur la météo ce vendredi matin. Un temps variable et venté sur la moitié nord, mais de belles éclaircies. Un ciel qui se couvrira toutefois un petit peu partout sur l'Hexagone. Côté température en Ile-de-France, comptez entre 9 et 16 degrés. Le maximum à Montpellier aujourd'hui avec 19 degrés. Et puis en Israël, il fait toujours aussi bon, 25 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv, 35 à Eilat.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
210e jour de guerre donc contre le Hamas, mais aussi contre le Hezbollah. Et on en parle comme chaque matin avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin. Et ce matin, malheureusement, on apprend la mort d'un nouvel otage en captivité, Pascal.
Oui, encore une confirmation de décès d'un otage. Dror Or, 49 ans, du kibbutz Be'eri. De nouveaux éléments ont permis d'établir qu'il avait été assassiné le 7 octobre par les terroristes du Hamas qui avaient ensuite enlevé son corps. Sa femme, Yonit, avait aussi été assassinée et leurs deux enfants pris en otage, Noam, 17 ans, et sa sœur Alma, 13 ans. Les deux adolescents avaient, eux, été libérés lors de la trêve de novembre. Il reste toujours 133 Israéliens otages aux mains du Hamas, dont au moins 37 ne sont plus en vie. Sur le front nord, des informations en provenance de Syrie font état d'une frappe attribuée à l'aviation de Tsahal hier soir à Damas. La cible serait un site de l'armée syrienne utilisé par le Hezbollah. 8 soldats syriens auraient été blessés selon l'armée syrienne. Ce serait donc la première frappe israélienne en territoire syrien depuis le raid qui avait éliminé le général iranien de la force Quds à Damas le 1er avril dernier. Une opération qui avait déclenché la première attaque directe de l'Iran qui avait tiré des centaines de missiles et de drones contre le territoire israélien le 13 avril. Par ailleurs, au cours de la nuit, des milices pro-iraniennes en Irak ont affirmé avoir tiré au moins 2 missiles de croisière contre Israël. Ils se sont apparemment perdus en route. Et hier, le Hezbollah a tiré plusieurs roquettes vers le secteur de Hardov. La défense antiaérienne a effectué 3 interceptions. Il n'y a pas eu de blessés. Et l'aviation de Tsahal a effectué une frappe ciblée contre des terroristes du Hezbollah au sud Liban avant qu'ils ne lancent leur attaque.
Alors l'autre titre évidemment de l'actualité ce matin, Pascal, ce sont ces négociations, toujours Israël qui attend la réponse du Hamas au sujet de sa proposition, et les principales oppositions viendraient surtout du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar.
Oui, hier soir, le cabinet de guerre israélien s'est réuni sans prendre de décision, mais pour faire plutôt un point de la situation. Un peu avant, le Hamas avait indiqué qu'il étudiait dans un esprit positif la proposition de trêve, selon ses termes. Il reste encore plusieurs obstacles majeurs, dont, du point de vue du Hamas, le fait qu'Israël ne veuille pas s'engager sur la fin de la guerre, alors que l'Égypte tente de persuader le Hamas que cela aura lieu au cours de la trêve, durant les négociations qui se poursuivront une fois que la trêve aura été enclenchée. Donc en Israël, on estime que le Hamas pourrait donner une réponse sous la forme d'un oui mais qui permettrait donc de poursuivre les discussions. Le Hamas, ce faisant, renverrait en quelque sorte la balle dans le camp israélien sans opposer de refus catégorique. Mais là, évidemment, on attend encore toujours une annonce formelle de la part de l'organisation terroriste palestinienne.
En tout cas, les États-Unis affichent clairement leur soutien à Israël. On a pu entendre notamment le secrétaire d'État américain hier qui a jugé la proposition d'Israël d'extraordinairement généreuse, Pascal.
Oui, c'est ce que Anthony Blinken avait déjà répété à plusieurs reprises, notamment lors de sa visite avant-hier en Israël et de sa rencontre avec les dirigeants israéliens. L'administration Biden maintenant estime que Israël a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire dans ses tractations, et que c'est au Hamas d'accepter cette proposition, donc la plus généreuse soumise jusqu'à présent, en tout cas selon l'appréciation américaine, puisque Israël accepterait notamment le retour partiel de la population déplacée de Gaza vers le nord du territoire côtier, de libérer des centaines de terroristes palestiniens en échange des otages, et de commencer à s'engager aussi dans un processus sur la reconstruction de Gaza à l'issue de la guerre. Mais on sait donc que le Hamas, lui, exige toujours le retour total de la population déplacée, le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza, et donc l'engagement d'Israël à mettre un terme définitif à sa guerre contre l'organisation terroriste.
Alors, une guerre contre l'organisation terroriste, justement, on parle des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a réitéré lors de sa visite en Israël son opposition à une opération à Rafah. Mais encore une fois, hier, le Premier ministre israélien a promis d'opérer dans la ville de Rafah, Pascal.
Oui, là encore, en l'occurrence, une dissonance entre la position de Washington et celle de Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou continue d'affirmer que l'opération à Rafah, donc ce dernier bastion du Hamas au sud de la bande de Gaza, aura bien lieu. C'est aussi à entendre dans le cadre de ces tractations pour la conclusion d'une trêve, dans la mesure où c'est en quelque sorte le dernier levier de pression qui reste entre les mains d'Israël pour forcer le Hamas à accepter cette trêve. Évidemment, si la trêve était conclue, était enclenchée, il est assez probable que l'opération à Rafah serait reportée d'autant, ou peut-être limitée dans son ampleur. Là, évidemment, les choses restent encore en suspens.
Alors, Benjamin Netanyahou, qui a fait un discours aussi hier, qui s'est exprimé à l'occasion d'une rencontre avec des survivants de la Shoah, puisqu'on sait que dimanche aura lieu le Yom HaShoah, et notamment à Yad Vashem, et Benjamin Netanyahou qui a aussi parlé de tout ce qui se passe en dehors du territoire israélien, les manifestations antisémites, notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en dit justement en Israël de ce qui se passe ?
Il y a une réelle préoccupation et une préoccupation croissante de ce qui se passe sur les campus américains, ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en France. Évidemment, les événements à Sciences Po Paris sont également largement couverts par les médias israéliens. On a entendu d'ailleurs hier le président Herzog s'adresser dans un message vidéo à l'ensemble des communautés juives de diaspora pour les assurer du soutien, de la solidarité d'Israël. d'Israël, de l'anxiété d'Israël face à ce que traversent ces communautés juives qui sont victimes de haine, d'hostilité, d'intimidation. Et le président Herzog les a exhortés à tenir bon et à rester fièrement debout pour lutter pour leur liberté, refuser le mensonge de toutes ces organisations et de tous ces mouvements qui nient aussi non seulement à Israël le droit de se défendre, mais qui soutiennent les massacres perpétrés par le Hamas. Donc on voit une préoccupation réelle et profonde d'Israël pour ce qui se passe pour les Juifs de diaspora.
Merci beaucoup Pascal Zonshein pour toutes ces précisions et ces explications. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 7h26 sur Radio J, comme tous les matins. À tout à l'heure.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 6h15, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Ilana, bonjour à tous. Le kibboutz de Be'eri annonce la mort d'un otage en captivité, Dror Or. Il a été tué par le Hamas dès son kidnapping le 7 octobre. Son corps est donc toujours détenu à Gaza en ce 210e jour de guerre. 8 soldats syriens ont été blessés dans une frappe aérienne attribuée à Israël dans la banlieue de Damas hier soir. Selon la chaîne saoudienne Al-Adat, cette frappe visait un avant-poste du Hezbollah. Le Hezbollah qui a également été ciblé hier soir par Tsahal dans le sud du Liban après que des terroristes ont été détectés dans des bâtiments militaires du groupe dans la région d'Eita al-Shaab. La Turquie a suspendu toutes ses relations commerciales avec l'État hébreu hier. En réaction, le ministre israélien des Affaires étrangères a comparé sur le réseau social X le président turc Recep Tayyip Erdogan à un dictateur. Enfin, la mobilisation pro-palestinienne qui secoue les campus américains atteint désormais les campus canadiens. Le premier ministre du Québec a demandé le démantèlement du campement de la prestigieuse université McGill à Montréal.
Merci beaucoup Etanit. Prochain rendez-vous avec l'actualité, l'information, ce sera à 6h30.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Et un peu de musique comme tous les matins dans Shirim, la chanson israélienne du jour. Et ce matin, on va écouter un jeune artiste israélien. Il s'appelle Yam Rafaeli, il a 25 ans, il vient de Be'er Sheva, chez Achekev, Imsa Lo Haverim, ce matin sur Radio J.
בטח אמיתי, זה כואב, לא כל כך פשוט לאבד את הלב. בסוף זה מסתדר, גם כשנראה שאתה רחוק מזה, רחוק מעצמך. שהכאב ימצא לו חברים לטייל איתם בלילה. אתה סיימת לוותר על האמת שכל יום היא בפנים, היא צועקת שכבר די לה, עוד מחכה שתתעורר. זה מסתדר תמיד, תזכור שזה גדול בחשיכה. תהיה טיפה סבלני, בסוף כל הלילות הייתה זריחה. זה בטח אמיתי וזה כואב, לא כל כך פשוט לאבד את הלב. בסוף זה מסתדר גם כשנראה שאתה רחוק מזה, רחוק מעצמך. שהכאב ימצא לו חברים לטייל איתם בלילה. אתה סיימת לוותר על האמת שכל יום היא בפנים, היא צועקת שכבר די לה, עוד מחכה שתתעורר. We'll be right back.
לוותר על האמת שכל יום היא בפנים היא צועקת שכבר די לה די לה
ים רפאלי sur Radio J, excellent réveil.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Nous sommes le vendredi 3 mai 2024. Merci d'être avec nous comme chaque matin en direct. Ce dimanche, vous le savez, aura lieu la journée du Yom HaShoah, la journée du souvenir de la Shoah. Et beaucoup d'événements se tiendront ce week-end, effectivement, notamment dimanche au mémorial de la Shoah avec la lecture des noms des Juifs de France déportés par les convois 22 à 57 pour commencer. Quelques 200 personnes, anciens, déportés, parents, volontaires, enfants, liront à tour de rôle. Notamment, on y reviendra. Et ce matin, on va parler aussi de toutes ces choses qui sont organisées, ces expositions, notamment avec le Rav Raphaël Gottschwarstein. Il est directeur de La Relève, un lieu d'études et de rassemblement pour la jeunesse juive parisienne, fondateur aussi de Chalem, qui organise des voyages de la mémoire en Pologne. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement.
Merci de m'inviter.
Effectivement, votre association est spécialisée dans les voyages de la mémoire. Chalem qui fait partir gracieusement 100 à 200 jeunes chaque hiver. Et vous étiez il y a quelques semaines en Pologne justement pour un voyage. Vous allez, il me semble, en organiser un autre au mois de mai.
Exact. On n'a pas encore la date exacte du voyage, mais il y en aura un mai ou juin.
Mai ou juin, et il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous êtes lancé dans un projet d'écriture d'un Sefer Torah. Alors qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors ça c'est, on va dire, pour avoir un symbole avec nous de renouveau du peuple juif, on a décidé de partir à chaque fois avec un Sefer Torah un peu miniature pour pouvoir le lire sur place, directement à Auschwitz.
Alors ça, voilà. Ça c'est pas encore fait, bien sûr.
Ah bah ça va dépendre des fonds qu'on arrive à lever en fait, qui sont symboliques, on va dire, pour pouvoir financer nos voyages. Donc comme vous l'avez bien rappelé, pour les jeunes avec Chalem, où la participation donc est de 0 euros pour vraiment qu'il n'y ait aucun frein. C'est souvent la participation financière qui est quand même pour des jeunes qui ont pas les moyens même de partir en vacances. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le peu d'argent qu'ils ont pour ça, c'était pas toujours évident. Donc, on voulait vraiment que ce soit pas un frein. Et donc, l'écriture de ce Sefer Torah va permettre, puisque ça fait participer toute la communauté à acheter une lettre dans le Sefer Torah, ça va permettre aussi de financer, surtout, de financer les voyages pour les jeunes et de partir donc avec un Sefer Torah miniature.
Alors, depuis la création de Chalem, ce sont 500 jeunes qui ont pu partir sur des milliers de candidatures. Et en fait, vous, ce que vous dites aussi, c'est que durant 5 jours, ce voyage se veut tout sauf angoissant, en fait.
Effectivement. Les gens partent souvent avec un a priori avant de s'inscrire, en tout cas. Parce qu'il y a vraiment une réunion obligatoire avant de partir. Et là, on explique ça très clairement avec des témoignages surtout. Et les gens partent souvent avec l'a priori que comme Yad Vashem c'est dur, Mémorial Shoah c'est très dur, tout ça c'est vraiment très dur, et ils imaginent que ces 5 jours, on va pleurer pendant 5 jours, alors que pas du tout. Le fait d'être en groupe, le fait d'aller avec un guide assermenté qui sait ne pas, on va dire, mettre l'émotion trop fort au moment où c'est trop dur, ça permet en fait d'aborder la chose avec, on va dire, c'est difficile à dire quand les gens l'ont pas vécu, donc ils ont du mal à croire, mais en fait les gens reviennent avec la pêche, ils reviennent pas déprimés, ils reviennent pas après 5 jours de pleurs, ils reviennent avec la pêche, vraiment ils reviennent avec la pêche, parce que ça leur donne vraiment, on va dire, l'envie de vivre, vraiment l'envie de vivre, de construire, de vivre à 100%.
Effectivement. Alors, un voyage donc qui aura lieu au mois de mai, juin, un voyage au cours duquel vous organisez d'ailleurs des rencontres avec des anciens déportés, des rescapés de la Shoah, et justement d'autres événements à venir pour ce dimanche. On l'a dit, ce sera le Yom HaShoah. Vous allez être notamment aux côtés de Martine, une fille de déportée. Alors ça, je ne sais pas exactement où ça se passe, mais ça a lieu dimanche,
Ça a lieu dimanche, ça a lieu à La Relève, donc dans le 9e arrondissement de Paris. Martine, fabuleuse, elle était avec moi en Pologne d'ailleurs il y a 3 semaines. On revient de Pologne, elle était en Pologne pour la première fois. Martine, c'est une enfant cachée qui avait 6 ans lorsque la Gestapo est arrivée pour chercher toute sa famille et qu'elle n'a évidemment plus jamais revue. Et donc, elle va nous raconter un peu son histoire, elle sera questionnée et on a un film fabuleux sur elle qui a été fait par Sophie Naoum dans la série exceptionnelle.
Les Derniers.
Qui s'appelle Les Derniers. Voilà, qui sera diffusé avec quelques passages inédits sur son témoignage et elle sera là avec sa famille. D'ailleurs, elle a eu cette phrase merveilleuse lorsqu'on était en Pologne. Elle a donc 89 ans, hein, si je me trompe pas. Et elle a dit donc voilà qu'elle a maintenant réussi à faire son deuil. Le fait d'aller sur place et d'aller aussi, j'imagine, avec son fils, son petit-fils et accompagné de sa famille, voilà, et de ce qu'elle a construit, forcément, ça lui a permis de faire son deuil.
Donc ça, ce sera ce dimanche 5 mai à 14h30. Et on peut encore s'inscrire, j'imagine, sur larelève.fr.
Ouais, on doit s'inscrire. Ouais. La-relève.fr. On peut s'inscrire et on doit s'inscrire. C'est sur inscription.
Donc ça, c'est pour 14h30. Et puis, vous allez aussi vous exprimer lors d'une conférence dimanche, également un petit peu plus tard, à partir de 17h. Alors, où ça se passe?
Alors, ça, c'est à Boulogne. Au centre culturel de Boulogne. Et ça, c'est aussi fou cette histoire parce que c'est un des participants qui s'appelle Stéphane Ziegler qui a voulu lancer une opération avec à Boulogne pour le Yamachois. Et donc, il m'a demandé de. Donc, j'aurai 2 interventions là-bas. C'est toute une après-midi.
Oui, exposition, stand, conférence, voilà.
Voilà, ouais. Exactement. Et donc, ça sera les interventions qu'il m'a demandé, surtout vraiment revenir sur cette idée-là de résilience. Il a voulu qu'on parle de toutes les révoltes pendant la Shoah. C'est vrai que c'est un sujet qui est très méconnu. Pardon. Et oui. Donc j'aurai 2 interventions là-bas parmi les interventions du rabbin Didier Kassavi, du président Daniel Benaroum, etc. D'autres et des témoins aussi. Oui. Et donc sur les révoltes pendant la Shoah, donc ce sujet méconnu de les gens connaissent souvent la révolte du ghetto de Varsovie, mais toutes les autres révoltes, et il y en a eu beaucoup. Sont vraiment méconnus, donc on va aborder ce sujet-là.
Les combats des Juifs pendant la Shoah, de la résistance à la résilience, effectivement, ce dimanche 5 mai à partir de 17h. Et vous le disiez, avec des témoins, Rachel Braffman notamment, qui a été cachée dès l'âge de 3 ans dans des maisons de Lozé. Vous allez intervenir sur les révoltes juives. On a aussi Jean-Charles Zerbib qui va parler de la marche des vivants, de la destruction à la Renaissance. Donc ça se passe à Boulogne. Il y a encore de la place pour s'inscrire, Raphaël ?
Oui, tout à fait au Centre culturel juif de Boulogne. Donc le lien doit se trouver très certainement facilement sur le site où ils ont reçu par mail les gens de Boulogne, mais sinon il suffit de m'écrire et je vous envoie le lien.
Super, et merci beaucoup Raphaël Gottferstein, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on peut se renseigner sur le site de La Relève, la-relève sans e.fr ou sur le Centre culturel juif de Boulogne. Beaucoup d'événements effectivement ce dimanche. Merci Raphaël, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. À noter que dimanche aura lieu la lecture des noms des Juifs de France déportés par les convois 22 à 57. Quelques 200 personnes, anciens déportés, parents, volontaires, enfants, liront à tour de rôle à partir des listes issues du livre Mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld les noms de ceux dont il ne reste que le nom, comme le disait Simone Veil. La cérémonie officielle qui débutera à 18h avec une ouverture au public dès 19h.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza. Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10 uniquement sur Radio J. Radio J.
À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du dimanche 5 mai à 18h au lundi 6 mai à 18h. Pendant cette lecture publique ininterrompue seront lus, un à un, les noms des personnes déportées par les convois numéro 22 à 57. La lecture des noms se déroulera au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy Lagny à Paris, dans le 4e arrondissement. Une manifestation organisée par le mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le consistoire sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 6h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme tous les matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce vendredi 3 mai 2024. 210e jour de guerre contre le Hamas et toujours 133 otages à Gaza. Et on fait le point de l'actualité avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
210e jour de guerre et on apprend ce matin la mort d'un nouvel otage en captivité.
Dror Or, 49 ans, qui faisait partie des Israéliens pris en otage par le Hamas au kibboutz de Be'eri. Il aurait été tué dès le 7 octobre, c'est ce que déclare son kibboutz. Son corps est donc toujours détenu à Gaza. Yonat, son épouse, a également été assassinée dans la maison du kibboutz. Et leurs deux enfants, Noam, 17 ans, et Alma, 13 ans, ont été kidnappés mais relâchés en novembre, lors du premier accord de cessez-le-feu signé par Israël et le Hamas.
Et justement, au sujet des négociations pour la libération des otages, Israël attend toujours la réponse du Hamas à sa proposition.
Une proposition que le secrétaire d'État américain juge extraordinairement généreuse. Le Hamas est le seul obstacle à un cessez-le-feu immédiat, pour sa part, indiqué Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. Les principales objections viennent du chef du groupe terroriste à Gaza, Yahya Sinwar, qui exige notamment la fin inconditionnelle de la guerre. Sinwar qui s'oppose également à ce qu'Israël ait le droit d'interdire l'accès de la Judée-Samarie à certains terroristes palestiniens. Par conséquent, selon le Wall Street Journal, Israël s'attend à ce que le Hamas rejette tout accord.
Cette nuit, par ailleurs, Israël aurait frappé en Syrie à Damas. 8 soldats syriens ont été blessés.
C'est ce que rapportent les médias d'État syrien, sans confirmation pour l'instant du côté d'Israël. Cette frappe visait une base syrienne utilisée par le Hezbollah. Par ailleurs, Tzal a ciblé plusieurs membres du groupe terroriste repéré dans des bâtiments utilisés pour attaquer la région du Mont Dov en Israël plus tôt hier.
Concernant la bande de Gaza, le premier ministre israélien a une nouvelle fois promis d'opérer à Rafah contre le Hamas.
Nous ferons ce qu'il faut pour gagner, triompher de nos ennemis. Le chef de l'exécutif a également précisé qu'il y avait toujours des désaccords sur les opérations en cours et à venir, mais que Tzal opérerait bien sur différents fronts. Écoutez.
Nous sommes tous engagés à obtenir la victoire et nous devons rester concentrés pour remplir cette mission. Il y avait et il y a des divergences d'opinion entre nous concernant les opérations à mener sur les fronts lointains et proches. Mais au terme des discussions, j'ai pris une décision et la décision a été prise. Nous avons agi là-bas et nous agirons ici également. Nous ferons ce qui est nécessaire pour vaincre notre ennemi, y compris à Rafah.
Le premier ministre israélien, pour sa part le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a réitéré l'opposition des États-Unis à une opération à Rafah.
Les manifestations anti-israéliennes se poursuivent aux États-Unis, obligeant hier le président américain à s'exprimer.
Les manifestations sur les campus ne m'ont pas amené à reconsidérer ma politique concernant Gaza. C'est ce qu'a indiqué Joe Biden, qui a estimé que l'ordre devait prévaloir. Plus de 2000 personnes ont été interpellées depuis le 17 avril sur une trentaine de campus. On écoute le chef d'État américain.
Une manifestation violente n'est pas protégée. Une manifestation pacifique l'est. C'est contraire à la loi quand il y a de la violence. La destruction de biens, ce n'est pas une manifestation pacifique. C'est contraire à la loi. Le vandalisme, l'intrusion par effraction, le cassage de fenêtres, la fermeture des campus, poussée à l'annulation des cours et des examens, rien de tout cela n'est une manifestation pacifique. L'opposition est essentielle à la démocratie, mais l'opposition ne doit jamais conduire au désordre ou à la négation des droits des autres étudiants à finir leur semestre et leur formation universitaire. Il y a le droit de manifester, mais pas le droit de semer le chaos.
Joe Biden hier depuis la Maison Blanche.
Et puis en France, on l'apprenait hier également, Sciences Po annonce la fermeture de ses principaux locaux à Paris.
Après un débat interne sur le Proche-Orient hier matin qu'ils ont jugé décevant mais sans surprise, les étudiants du comité à Palestine de Sciences Po Paris ont de leur côté annoncé hier soir le début d'une grève de la faim en solidarité, disent-ils, avec les victimes palestiniennes.
Et puis enfin, pour terminer, vous l'avez peut-être vu, Guillaume Meurice suspendu par Radio France après avoir réitéré ses propos sur Benjamin Netanyahou, il l'avait nazifié.
Il y a des choses qu'on peut dire, par exemple
exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi, mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur a dit c'est bon. C'est ce qu'avait déclaré le chroniqueur sur France Inter le week-end dernier en référence au récent classement sans suite d'une plainte à son encontre qui l'accusait d'antisémitisme. L'humoriste est aujourd'hui dans l'attente d'une éventuelle sanction qui pourrait aller jusqu'au licenciement.
Merci beaucoup, Etanit Belaïch. Etanit, on vous retrouve tout au long de cette édition sur Radio J dans 10 petites minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Radio J, le 6-9, Hélène Ferradian.
Et ne bougez pas, les amis, sur Radio J, dans quelques instants, nous allons retrouver le Dvartora du Rav Mevorer Zerbib. J'en profite d'ailleurs pour vous donner les horaires d'entrée du Shabbat ce soir à Paris. 20h51, sortie demain, 22h06. Et oui, Shabbat qui sort de plus en plus tard, qui entre de plus en plus tard. C'est bientôt l'été, on lira la paracha Acharemot et nous retrouvons le Rav Mevorer Zerbib. Rav, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Acharemot, dernier Shabbat du mois de Nissan. Shabbat, on va bénir le mois de Iyar, le mois extraordinaire, le mois d'Iyar. C'est le mois où on a reçu la manne, c'est le mois de l'Hilula de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, de Yom Hatzmaout et de Yom Yerushalayim, mais aussi de Yom Hazikaron, le mois de lumière, le mois de Refoua, de guérison, le mois de Parnassa. C'est ça, le mois d'Iyar, dont on va avoir la bénédiction ce Shabbat. Mais ce Shabbat, on va avoir aussi le premier chapitre des Pirkei Avot, des Maximes de nos Pères, une étude très très prisée, et qui nous mentionne les Anshei Knesset Gdola, les membres de la Grande Assemblée. C'est dans la première Mishnah où on donne Shalshelet HaKabbalah, la chaîne de la transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu, en passant par Josué, les anciens, les prophètes, qui ont transmis après aux membres de la Grande Assemblée. Alors, une chose intéressante sur les membres de la Grande Assemblée, Anshei Knesset Gdola. Knesset, on a l'impression d'entendre Bet Knesset. Et oui, c'est la même racine du rassemblement Bet Knesset, la prière et la synagogue. Est-ce qu'ils ont un lien avec la prière? Bien sûr que les Anshei Knesset Gdola ont un lien avec la prière, puisque on dit que on leur doit la base des textes de la prière, que ça soit de la Amida, que ça soit le Kiddush, l'Avdala, parce que quand eux qui ont vécu au début du deuxième temple, après donc le retour de Babylonie, où tout le monde n'avait pas forcément un langage très pur en hébreu, parce qu'il y avait un petit peu des mélanges dus à l'exil. Alors, pour pouvoir exprimer la prière dans la meilleure, une langue cohérente et unie, eh bien, ils ont rédigé des prières, et on est au début du deuxième temple. Mais si on est au début du deuxième temple, ça veut dire qu'il y avait des sacrifices qui étaient offerts. Et on voit ici qu'au moment où les sacrifices sont offerts, il y a le rétablissement du culte sacrificiel dans le deuxième Beth Amikdash. À ce moment-là, eh bien, on nous parle d'institution des textes fondamentaux de la prière, tel qu'on les connaît aujourd'hui. Eh bien, ça veut bien dire que la prière a toujours existé, même quand il y avait les sacrifices, et même si aujourd'hui, la prière a aussi la fonction de remplacer les sacrifices, puisqu'il n'y a plus de sacrifices, alors on remplace par la prière, mais la prière ne fait pas que remplacer les sacrifices. Même à l'époque où il y avait les sacrifices, la prière était très présente, et c'est la preuve d'Anshei Knesset Gdola, des membres de la Grande Assemblée, qui ont donc donné les textes de base de la prière à une période, à une époque où il y avait les sacrifices qui étaient pratiqués normalement. Et là, c'est, je pense, une notion importante à rappeler cette place de la prière. En effet, dans le traité Brachot, on pose la question. La prière a été instituée par les patriarches, donc avant les sacrifices, Abraham, la prière du matin, Yitzhak l'après-midi, Yaakov le soir, ou Keneget Temidin Tiknum, c'est en rapport avec les sacrifices. Mais quand on dit en rapport avec les sacrifices, ça veut dire qu'ils sont liés avec les sacrifices, mais pas seulement. Ça va au-delà. Ainsi, on retrouve dans la prière cette double acceptation, une liée au sacrifice, certes, mais une autre qui n'est pas forcément liée au sacrifice et qui va être liée au patriarche. On dit patriarche, avot. Tiens, avot, ça nous fait penser peut-être au Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Est-ce qu'il y a un lien? C'est ce que nous verrons cet après-midi. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous déjà ce matin pour 10h32 pour prolonger notre réflexion, notamment sur cette période du Homer. Période, souvent quand on parle de Homer, on pense à deuil, à tristesse. c'est pas faux, parce que c'est une période de deuil, mais à la base, c'est pas ça. À la base, la période du Homer était une période festive, et c'est parce que, justement, il nous manque des choses, il nous manque des choses, alors c'est pour ça que ça a perdu son côté festif, et c'est peut-être là l'un des sens ou de la paracha qu'on dira ce Shabbat, Acharemot, après la mort des enfants d'Aaron. Ça commence un petit peu triste, mais ça nous parle de Kippour. Alors, le pardon, l'expiation, Kippour, tout un programme. Rendez-vous tout à l'heure à 10h32 et puis à 15h pour l'heure. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Guy Chabès. Shabbat Shalom, au Mévorar.
Shabbat Shalom, les amis, on peut retrouver évidemment le Rav tous les jours sur Radio J.
Radio J.
Le Yiddish Show.
Liz Gutman.
Retrouvez-moi tous les samedis soirs à partir de 22h pour le Yiddish Show. Au programme, des invités, de la musique yiddish, klezmer, du théâtre, des auteurs.
Radio J.
9, Ilana Ferradian.
Et tout de suite, 6h40, c'est Microsion, votre carte postale d'Israël avec Xavier Nataf.
Israel Bonds, c'est le nom communément connu de Development Corporation for Israel, le souscripteur américain de titres de créance émis par l'État d'Israël. L'idée d'émettre des obligations émises par le gouvernement israélien a été conçue par le premier Premier ministre, David Ben-Gourion, au lendemain de la guerre d'indépendance d'Israël, alors que la nation manquait cruellement de ressources économiques. Au début, les investisseurs dans Israel Bonds étaient en grande partie des membres de la communauté juive américaine cherchant à soutenir l'économie de l'État naissant. Cependant, au cours des années suivantes, les investisseurs privés et institutionnels ont considéré les obligations israéliennes comme un investissement significatif. Plus de 90 fonds de pension et de trésorerie des États et municipalités américaines ont investi plus de 3 milliards de dollars dans des obligations israéliennes à ce jour. Les autres investisseurs dans les obligations israéliennes comprennent des sociétés, des compagnies d'assurance, des associations, des syndicats de banques, des institutions financières, des universités, des fondations et des synagogues. Israël utilise le produit de la vente des obligations à des fins générales de l'État. Les ventes ont augmenté régulièrement depuis l'émission initiale de l'indépendance en 1951, avec des ventes mondiales totales dépassant maintenant 48 milliards de dollars.
Microsion, cette carte postale d'Israël, vous est offerte par l'Organisation Sioniste Mondiale.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous le savez, on en parle depuis plusieurs semaines. L'Eurovision qui approche à grands pas. Effectivement, le concours de l'Eurovision qui se déroulera du 7 au 11 mai prochain. Et on l'apprenait hier soir, Jérusalem qui déconseille les séjours dans la ville suédoise de Malmö, craignant des manifestations anti-israéliennes. Effectivement, plusieurs demandes de manifestations ont été déposées pour protester contre la présence dans la compétition d'une concurrente, Eden Golan, représentant Israël. Et donc, Jérusalem s'inquiète. Le Conseil de la Sécurité Nationale, organisme dépendant du Premier ministre israélien, s'inquiète que des cellules terroristes profitent des manifestations et de ce climat délétère anti-israélien partout dans le monde pour mener des attaques contre des Israéliens venus en Suède pour l'Eurovision. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on avait dit qu'Israël avait conseillé à Eden Golan et à son équipe de ne pas quitter sa chambre d'hôtel pendant toute la durée de l'Eurovision. Et justement, on parle d'Eden Golan, mais en tout cas, Eden, les amis, c'est une très bonne nouvelle, étant très
très bonne place pour gagner peut-être la compétition. Effectivement, deuxième position du classement des chansons les plus appréciées de l'Eurovision 2024 avec son fameux titre Hurricane. Son clip est l'un des plus aimés sur YouTube. Plus de 118 000 j'aime sur la plateforme. 5 millions de vues juste derrière les Pays-Bas et devant l'Ukraine qui en a deux fois moins. Donc on souhaite eh bien, beaucoup de courage à Eden Golan et son équipe sur Radio J. This hurricane.
Radio J, le 6-9. Hélène Ferradian.
6h45, l'essentiel de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Le kibboutz de Be'eri annonce la mort d'un otage en captivité, Dror Or. Il a été tué par le Hamas dès son kidnapping le 7 octobre. Son corps est donc toujours détenu à Gaza en ce 210e jour de guerre. 8 soldats syriens ont été blessés dans une frappe aérienne israélienne dans la banlieue de Damas hier soir. Selon la chaîne saoudienne Al-Adat, cette frappe visait un avant-poste du Hezbollah. Le Hezbollah qui a également été ciblé hier soir par Tsahal dans le sud du Liban après que des terroristes aient été détectés dans des bâtiments militaires du groupe dans la région d'Eita al-Shaab. La Turquie a suspendu toutes ses relations commerciales avec l'État hébreu hier. En réaction, le ministre israélien des Affaires étrangères a comparé sur le réseau X le président turc Recep Tayyip Erdogan à un dictateur. Enfin, la mobilisation pro-palestinienne continue de faire des remous outre-Atlantique. Au moins 2100 personnes ont été arrêtées à travers tous les États-Unis ces deux dernières semaines d'après un décompte de NBC.
Merci beaucoup Etanit, on vous retrouve tout au long de cette édition. Prochain point avec l'actualité, ce sera à 7h15. 7h, n'oubliez pas, le journal d'Israël.
Le 6-9. Radio J.
Radio J.
Et ne bougez pas, les amis, vous le connaissez, ce rendez-vous, c'est Mila, le mot du jour, apprendre un mot ou une expression en hébreu chaque jour sur Radio J avec Eli Cohen. Shalom Eli, Boker Tov. Mila, le mot du jour. Et oui, c'est votre rendez-vous tous les...
Le 6-9, Hélène Ferradian.
Mila, le mot du jour. Et oui, c'est votre rendez-vous tous les matins sur Radio J avec Eli Cohen. Shalom Eli.
Shalom Ilana, et shalom les kolamazinim.
Alors aujourd'hui, Eli, vous mettez les petits plats dans les grands puisque vous allez nous parler du Shabbat.
Absolument Ilana, le mot Shabbat, contre toute attente, ne signifie pas se reposer, mais précisément cesser le travail. Le verset que l'on dit dans le kiddush du samedi est le suivant. Et le septième jour, il cessa de travailler et se reposa.
On n'est pas loin de la grève dans ce contexte-là.
Absolument. Le mot grève vient du mot Shabbat. C'est Shvita, un mot bien connu en Israël. Par ailleurs, le samedi est le seul jour à avoir un nom en hébreu, Ilana, puisque les autres jours, c'est premier jour, deuxième jour, troisième jour. Yom Rishon, c'est dimanche, hein. Attention. Hein.
Ouais.
Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Shishi. Et Yom Shabbat.
Alors, pour résumer, la racine du mot Shabbat est toujours en rapport, je crois, avec la mise à l'arrêt du travail. Hein.
Exactement. Il s'agit donc de la racine Shin, Bet, Tav, qui donne, par exemple, les Hashbit, mettre à l'arrêt, ou Hashbata, la mise à l'arrêt. Par exemple, on peut dire que à Tel Aviv, le tramway est mis à l'arrêt le Shabbat, Be Shabbat, Be Tel Aviv, Mashbitim et Arakevet Akala.
Donc, encore un mot de la même famille que vous vouliez rajouter.
En effet, pour dire un jour férié, c'est... Alors, ce n'est pas Yom Shabbat, c'est Yom Shabbaton. C'est un mot biblique qui désigne les jours de fête où l'on ne travaille pas. Yom Shabbaton.
Yom Shabbaton. Dernière curiosité pour nos auditeurs, et cette fois-ci, vous nous emmenez dans l'espace.
Oui, une des planètes du système solaire s'appelle Saturne. Il ne vous aurait pas échappé que ça a donné le nom en anglais Saturday, Saturday Night Fever. Ouais.
Vous aimez bien mon accent? Vous voulez pas chanter avec nous?
Eh bien, en hébreu, Saturne se dit Shabtai. C'est aussi un prénom d'ailleurs, Shabtai, qui vient du mot Shabbat. Et Saturday. Oui. Eh ouais, c'est incroyable. Hein. Il ne reste plus que vous souhaiter Shabbat Shalom.
Eh bien, Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Eli Cohen, Toda Rabba. Et pour une formation plus complète, rendez-vous sur votre site à cours-d'hébreu.com.
Toda Ilana et Toda Lekola Maazinim.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et oui, merci d'être avec nous, 6h49. Et comme chaque matin, nous allons retrouver Chaim Nissenbaum. J'en profite pour vous donner les horaires d'entrée du Shabbat ce soir à Paris. 20h51, sortie demain 22h06. On lira la paracha Acharemot et nous retrouvons Chaim Nissenbaum pour un jour, une mitzvah. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. Le Shabbat, c'est le jour où il y a la lecture publique de la Torah, de toute la paracha, la portion hebdomadaire. On a pu remarquer, bien sûr, que pendant cette lecture, trois personnes sont toujours présentes sur l'estrade où on lit la Torah. Bien, c'est l'occasion de se demander pourquoi. En effet, pourquoi trois personnes? C'est en général le président ou son trésorier. Et puis, il y a celui qui est appelé à dire les bénédictions lui-même. Et il y a bien sûr le lecteur. Alors, pourquoi cela? A priori, cela semble être une simple organisation. Eh bien, cela va beaucoup plus loin. L'un de nos grands commentateurs, le Levouche, éclaire cette cérémonie d'une lumière particulière. Il enseigne qu'ici se retrouvent en symbole trois personnages qui sont finalement les clés du destin de notre peuple. Dieu, oui, lui-même, Moïse et le peuple juif. Où les retrouve-t-on? On a dit tout à l'heure que sur l'estrade se trouve un responsable de la synagogue qui appelle à monter à la Torah. N'est-ce pas là le symbole de Dieu qui appelle à respecter sa Torah? À ses côtés se tient le lecteur. Il représente Moïse, intermédiaire obligatoire, nécessaire dans la transmission de la Torah. Et le troisième, celui qu'on appelle pour prononcer les bénédictions, il incarne le peuple juif. Appelé lui aussi à recevoir la Torah au Mont Sinaï. On le voit, nous sommes loin d'une simple organisation administrative. C'est notre peuple qui est ici en jeu, comme dans chaque acte de notre vie. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Chaim Nissenbaum, Chaim qu'on retrouve tous les matins sur Radio J. Et je vous donne d'ailleurs rendez-vous tout à l'heure à partir de 7h05 pour votre billet de Shabbat.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio
J. 6h51, ce dimanche aura lieu le Yom HaShoah, le jour du souvenir de la Shoah. Effectivement, il y aura beaucoup d'événements, d'expositions, de conférences qui seront organisées et notamment, évidemment, au mémorial de la Shoah à Paris. Lecture des noms des Juifs de France déportés par les convois 22 à 57. Quelques 200 personnes, anciens déportés, parents, volontaires, enfants, liront à tour de rôle à partir des listes issues du livre Mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld, les noms de ceux dont il ne reste que le nom, comme le disait Simone Veil. La cérémonie officielle débutera à 18h avec une ouverture au public dès 19h. Et à noter que ces commémorations, ces lectures vont se poursuivre lundi 6 mai également. Un hommage sera rendu à Samuel Milot Adonner, ses compagnons sentinelles de la mémoire au cœur de Paris de Claude Bucherberg, avec ses compagnons de Blechhammer Auschwitz regroupés à partir de 1965 en la synagogue de la place des Vosges. Et puis on pourra aussi écouter Serge Klarsfeld, historien, avocat, fondateur bien sûr de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Ce sera lundi à partir cette fois de 14h30 dans l'auditorium Edmond Safra. On aura l'occasion de revenir sur tous ces événements sur Radio J.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai Yvan Attal.
Les enfants de la République de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci de nous rejoindre pour l'infotrafic en région parisienne. On va parler de ce qui se passe sur les routes d'Île-de-France. Bien sûr, c'est la solution trouvée par le gouvernement pour éviter la saturation de l'A14 aujourd'hui en raison de la fermeture de l'A13, toujours entre Paris et Vaucresson depuis le 18 avril. Le prix du péage qui relie la Défense dans les Hauts-de-Seine à Orgeval dans les Yvelines sera réduit de 50% pour les personnes pratiquant le covoiturage et ce pendant une semaine. Donc, on l'apprenait. Et puis ce matin, coupure de l'A6B dans les deux sens, tunnel de Bicêtre fermé fermée, notamment à la suite d'un incendie dans le tunnel, ce qui peut ralentir la circulation. Dans les transports en commun, également des éléments à prendre en compte aujourd'hui. Le trafic sur le RER B et le RER D sera affecté avec un nouveau week-end de travaux, notamment sur le RER C, adaptation de l'offre de transport. Renseignez-vous avant de vous rendre en gare. Et puis d'ores et déjà ce matin, sur la ligne D, trafic ralenti entre Melun et Corbeil-Essonne. Prévoir des allongements de temps de trajet allant jusqu'à 20 minutes. Sur la ligne E également ce vendredi, trafic ralenti entre Haussmann-Saint-Lazare et tournant dans les deux sens de circulation en raison apparemment d'un obstacle sur la voie.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Elles sont mères de famille, entrepreneuses, chefs d'entreprise, influenceuses, artistes, universitaires. Elles agissent toutes conjointement en France, mais aussi en Angleterre, aux Émirats, en Allemagne, aux États-Unis. Des femmes déterminées qui unissent leurs forces avec un objectif commun, sensibiliser les populations sur les conséquences des conflits afin d'encourager la médiation plutôt que la violence. C'est le collectif Women United for Peace et nous sommes ce matin avec Joy Jaoui, cofondatrice du collectif, et Sandra Ifra, porte-parole du collectif. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Women United for Peace. Alors, on vous avait déjà reçu, Sandra, il y a quelques semaines pour en parler. Pour ceux qui n'ont pas écouté cette interview, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment est né ce projet?
Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin. On est très heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au lendemain des attaques du 7 octobre, comme vous savez, il y a beaucoup de groupes qui ont été créés. Des groupes plutôt de soutien, des groupes d'échange d'informations sur WhatsApp notamment. Et nous, tout de suite, on a eu envie d'agir. Ouais. Et on a eu envie de créer un groupe d'action. Et donc, ça a commencé, on était une petite vingtaine.
Ouais.
Et puis rapidement 40, et puis rapidement 100. Et aujourd'hui, on est plus de 600 sur WhatsApp. On est plus de 6000 sur Instagram. Les actions ont été partagées et sont partagées, je dirais, sur deux pôles principaux. Déjà, on a décidé, comme vous le savez tous, que la lumière vaincrait sur les ténèbres.
Ouais.
Donc, on a tout de suite créé nos bougies. On a tout de suite créé des installations lumineuses. Par exemple, au pont des Billys, sur l'esplanade de Ben Gourion.
Ouais.
On a fait une très très jolie installation. Et puis rapidement, on a soutenu des associations.
Alors justement, on va parler de tout ce que vous organisez, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord pour le jour de l'indépendance, Yom Ha'atzmaout, qui aura lieu lundi 13 mai, vous allez organiser une soirée au profit de l'association Tzedek.
Alors, le
14 mai, à ne pas confondre avec l'association antisioniste Tzedek,
évidemment,
qui sévit sur le territoire français, mais effectivement une association qui vient en aide plutôt aux enfants en Israël.
Alors Joy va vous en parler.
Oui, exactement. Donc c'est une association. Donc comme je vous disais, on soutient aujourd'hui les associations. On est resté un collectif.
Ouais.
Et donc on aide. Et pour le 14 mai, c'est l'association Tzedek. Qu'est-ce que c'est que cette association? Elle a été créée il y a plus de 40 ans en Israël par un rabbin qui s'appelle Paul Reutemann, qui était français, enfin qui est né en Pologne, qui a venu en France, qui est parti faire son alia en Israël et qui a quitté quelque part le rabbinat pour l'éducation. Il a décidé de s'occuper des enfants défavorisés dans les quartiers les plus défavorisés. Et qu'est-ce qui se passe en Israël? Contrairement à chez nous, l'école termine très tôt.
Ouais.
Et donc, soit vous avez la chance d'avoir une famille qui peut s'occuper de vous, les activités extrascolaires, les devoirs, tout ça, soit vous l'avez pas et vous êtes dans la rue. Et donc, cette association s'occupe aujourd'hui de plus de 2000 enfants qui sont défavorisés. La moitié de ces enfants sont dans des familles, quand même, je dirais, de schéma classique. Et la moitié sont dans ce qui a été créé en Israël, des villages pour enfants.
Alors ça, c'est le 14 mai, donc une soirée. On peut encore y participer. Comment y participer?
Bien sûr. Alors en fait, je vais vous raconter un petit peu comment ça va se dérouler. On a la chance donc de créer un thème sur les enjeux de la paix avec Gilles Kepel, que vous voyez beaucoup sur les antennes, qui est politologue, et Laura Blajman-Kadar, qui est, vous savez, une rescapée, une survivante du massacre du 7 octobre, avec qui j'ai eu la chance d'échanger.
Qui a publié un livre.
Qui a publié un livre comme Le Croire en la vie. Gilles Kepel s'appelle Holocaust, c'est très complémentaire parce qu'en fait on a voulu via Woman montrer deux images, à la fois évidemment reparler des otages et de tout le massacre du 7 octobre, et vous verrez lors de cette soirée, je pense que le témoignage de Laura va être bouleversant, on apprend plein de choses, on pense tout savoir, et ayant lu le livre, ayant échangé avec elle, non, on ne sait pas tout, donc on en apprend encore aujourd'hui. Et puis avec Gilles Kepel, hein, que je n'ai plus besoin de présenter, politologue, on va justement parler d'Israël, de Gaza, de la guerre contre l'Occident, de l'actualité également, parce que Woman, c'est aussi de la pédagogie en plus de la solidarité. Et donc on a la chance avec Rutel Krief qui nous fera l'honneur de débattre avec eux.
Effectivement, donc rencontre animée par la journaliste Ruth Elkrieff, ça se passe dans le 16e arrondissement de Paris, alors il nous reste vraiment très très peu de temps. Si on veut participer et si on veut devenir membre aussi du collectif, comment faire?
Sur Instagram, vous pouvez tout simplement nous contacter soit via le site internet Woman United for Peace, nous écrire, ou bien voir toutes nos actualités et pourquoi pas ensuite faire des actions avec nous. On a encore besoin de femmes, de bénévoles, et je rappelle juste que malgré le nom Woman United for Peace, pour la soirée, pour le petit déjeuner du 14 mai, les hommes sont évidemment welcome.
Vous n'êtes pas sectaire, hein,
non, bon. Heureusement.
Merci beaucoup.
Merci Joy à vous, Jaoui,
merci Sandra Ifra d'avoir été avec nous sur Radio J. Effectivement, donc une soirée le 14 mai à l'occasion du Yom HaTzmaout, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Je vous dis